travail. Qui va nous, en fait, qui va nous montrer le travail dans lequel il est actuellement, qui est un travail au très long cours, qui est un travail qui montrera officiellement à la Cité de la Villette au mois de décembre. Et il va nous montrer l'étape actuelle, et ensuite il fera une conférence, hein, comme Alexander. Ça va être extrêmement intéressant. Donc je vous demande un petit peu comme la semaine dernière, d'inviter les gens qui peuvent être intéressés, parce qu'évidemment, je pense que pour lui, c'est bien. Et bien sûr, de venir. Voilà, donc je mentionnais, ça peut vous intéresser, vous, puisqu'on a un performeur, danseur, qui vient la semaine prochaine, America, et ça va être exceptionnel. Hein. Il va faire un solo. Il faut faire un solo qui va avoir lieu dans la petite salle. Alors, il faut, voilà, il faut être là, et il faut amener des gens, parce que... Je crois que ça peut être comme la semaine dernière, si quelqu'un d'une très très grande qualité spéculative, comme Alexander, comme Dominique Figarella. Donc on va avoir la chance, une nouvelle fois, de pouvoir avoir un dialogue intéressant avec un artiste tout à fait bien. Voilà. Donc vous êtes cordialement invité à inviter d'autres gens. Sinon, cette séance, eh bien, c'est une séance qui, dans mon esprit, comme je l'avais dit, était un peu sur le modèle de la séance du, qui était la séance dans laquelle Gabriel Cabello nous avait fait part d'un certain nombre de considérations sur Baudelaire et qui avait ensuite été prolongée dans une conversation qui était tout à fait, je trouve, intéressante par rapport à notre problématique. Donc aujourd'hui, j'avais dit qu'on reviendrait sur une question que m'avait posée Vincent Deslandres, qui est là, qui était cette idée, au fond, que j'avais un peu lancée à travers un titre de séance lorsque j'avais parlé d'une critique qui ne serait pas résistance, voilà, et qui avait ressurgi cette question dans la séance de conversation avec Pierre Huyghe. Lorsque on avait parlé en fait d'une distinction entre critique et contestation. Hein, c'est un petit peu la même direction. Donc j'ai sollicité de façon très informelle, c'est-à-dire sans leur demander de préparer quoi que ce soit, deux personnes avec qui on a commencé à en parler très très fugitivement, mais dont je sais qu'ils réfléchissent sur cette question, qui sont d'une part Florent et d'autre part Manuel. Voilà. Moi, je voulais juste faire peut-être un tout petit point pour les gens qui n'ont pas suivi le séminaire de manière constante, et même pour nous tous, au fond, pour un petit peu recadrer la façon dont cette question s'est posée à nous et dont, à mon avis, elle continue de se poser, pour un tout petit peu lui donner une sorte de cadre problématique. Donc l'idée, c'est au fond d'arriver à concevoir quelque chose comme une positivité du jugement, hein, ou d'une affirmativité de la critique. C'est un petit peu ce que Pierre Huyghe, finalement, disait à travers l'idée de célébration. Donc essayer de penser une critique qui ne soit pas sur, disons, sur le registre de, au fond, du conflit oedipien, dont on sait que ultimement, finalement, j'allais dire, ça revient au même, hein, et qu'on ne fait que réinstaller ce qu'on tentait de critiquer. Je me demande si on ne pourrait pas fermer, à moins que Vincent soit parti. D'accord. Et moi, ce que je voulais quand même dire, je voulais juste comme ça proposer quelques idées. Il me semble que Michel Foucault est certainement un philosophe qui est très très bien pour poser cette question. Pourquoi ? Parce que il me semble, en tout cas, que c'est un philosophe qui véritablement a une cause. C'est-à-dire, je pense que la condition à laquelle on peut tenter de commencer à penser quelque chose comme une critique qui ne serait pas résistance, donc qui ne serait pas dans cette position de défense, c'est de penser que la critique a pour fondement ce qu'on appelle une cause, c'est-à-dire en fait, cause c'est chose, s'il n'y a pas un désir derrière la critique, et si on n'est pas en mesure d'identifier cette cause et ce désir. Donc, c'est-à-dire en fait d'historiciser quelle est la cause au nom de laquelle la critique est proférée, et donc aussi bien quel est le désir qui porte cette critique. Je pense que si on sort de cette contingence de la critique, on est voué à reconduire infiniment les mêmes apories. La cause de Foucault, et je dois dire que je partagerai assez personnellement cette cause, au sens où je pense qu'elle est juste, et je pense qu'elle est encore actuelle. C'est véritablement, j'allais dire, la remise en question de la politique pastorale et cette notion d'intériorité, qui est, on va dire, la condensation de cette politique pastorale, c'est-à-dire l'idée de la fabrique de l'intériorité qui porte vraiment, on va dire, l'Occident chrétien. Et donc, on peut difficilement, finalement, dissocier la pensée de Michel Foucault de cette lutte, véritablement, contre le christianisme. Ça, c'est très, très important. Et je pense que si on oublie ce point-là, on part dans une abstraction totale. C'est-à-dire que, véritablement, la cause de Foucault, c'est la remise en cause de cette fabrique de l'intériorité dont, on va dire, les premiers managers ont été les clercs, et qui s'est ensuite, on pourrait dire, perpétuée à travers l'État moderne. Alors ensuite, on peut discuter, des différents maillons historiques de l'analyse de Foucault, mais si, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, si on, à mon avis, on peut reprendre, on peut continuer à réfléchir dans cette direction, c'est qu'on s'aperçoit, lorsqu'on travaille sur justement un ensemble de pratiques, et notamment de pratiques artistiques, que c'est effectivement, une cause très prégnante. Et vous vous souvenez qu'au fond, ce qu'on avait dégagé, à partir de Foucault, c'est qu'au fond, ce qu'il s'agissait de remettre en question sur la base de cette critique de la politique pastorale et d'une certaine formulation d'intériorité, c'était en fait un certain régime d'écriture. Et que ce que Foucault appelle hypopnémata, ou écriture de soi, ou pratique de soi, ou culture de soi, on a suffisamment parlé de ça, en réalité, c'est une manière de remettre en jeu un certain régime d'écriture, on pourrait dire un régime d'écriture qui se fait sur le mode de l'injonction, et qu'il s'agit au fond de retourner le pouvoir crypté dans l'écriture occidentale portée elle-même par un certain régime théologique contre elle. Et en fait, c'est quand même ça, au fond, qui est au cœur du projet de Foucault. C'est-à-dire, cette lutte ou cette critique d'un régime, crypto-théologique de l'écriture dans la tradition occidentale, on ne comprend pas du tout de quoi il est question. Et que, il s'agit de se demander, au fond, si cette cause est encore la nôtre en Occident, et pourquoi éventuellement, et en tout cas de se demander qui, à part Foucault, s'est fait le héros de cette cause également. Donc essayer de refaire généalogiquement un peu l'histoire, pas seulement généalogiquement d'ailleurs, mais aussi dans l'actualité, l'histoire de cette problématique. Donc en fait, de fait, si on est attentif à cette problématique foucaldienne, et si on essaie de la tenir jusque dans ses conséquences, on se rend compte que cette positivité du jugement, ou encore cette critique qui ne serait pas résistance, eh bien, on la trouve effectivement dans ce que Foucault appelle les pratiques de la mémoire, et que cette question de la mémoire, elle est bien cruciale. Donc, pour une fois avancer quelque chose, un tout petit peu affirmatif, je tiendrai assez volontiers le fait que la manière dont Foucault, via Baudelaire, introduit une espèce de, j'allais dire, de manière de reposer et en même temps de critiquer la théorie kantienne de la réflexion en y injectant cette problématique de la mémoire, hein, l'idée que la réflexion, elle se fait en réalité, hein, sa base, hein, ce sont les arts de la mémoire, hein, et que la réflexion n'est jamais, hein, qu'une manière de rejouer autrement les arts de la mémoire, et donc de réinscrire la question de la réflexion chez Kant dans la question des arts de la mémoire et des pratiques de la mémoire. Ça me semble aujourd'hui être encore quelque chose qui tient, enfin, et sur lesquels on peut continuer à réfléchir, mais là, évidemment, c'est une option, enfin, je veux dire, c'est une décision, et ça reste à voir et à discuter. Ce que je voulais vous dire, alors, j'ai été amenée à réfléchir à ça, et là, je vais, voilà, tout simplement hier, parce qu'il s'est trouvé que j'ai eu à reparler un peu de Henri Michaud, et à reparler comme ça dans un interview à partir d'un chapitre que j'avais écrit sur Michaud, sur tout l'enjeu chez Michaud, dont j'ai déjà parlé ici d'ailleurs une fois, du passage de l'écriture au dessin. Et ce passage de l'écriture au dessin, hein, il s'agit vraiment, comme le dit Michaud, d'un désenlisement, hein, d'un déconditionnement, hein, d'une opération véritablement d'émancipation, pour reprendre, hein, de libération, pour reprendre un terme qu'on a déjà utilisé ici. Et cette opération, disons, d'émancipation, de désenlisement, ou de sortir, dit-il, d'une transcendance qui ne s'accomplissait pas, c'est-à-dire, hein, d'une espèce d'abstraction de la transcendance, hein, pour d'une certaine façon réinscrire la pratique, ben, presque, on va dire, quelque part, hein, pour qu'au fond la pratique puisse s'inscrire quelque part. Hein. Eh bien, chez Michaud, hein, on voit bien qu'il s'agit de quitter un certain régime de l'écriture, qui est un régime occidental de l'écriture, comme on le voit d'ailleurs par ça, par la manière dont il se tourne vers l'Asie, pour essayer de réintroduire dans le dessin qui, chez lui, ne renvoie pas du tout à la peinture, mais renvoie continuellement, en fait, à l'écriture, est une espèce de manière de resubjectiver autrement la pratique de l'écrivain, de réinjecter dans cette pratique du dessin une certaine mémoire du corps, hein, une certaine pratique du corps. Hein. Il s'agit, au fond, de sortir le dessin de la dimension de la page, hein, référée au tableau, pour le réinscrire dans une autre dimension, qui est véritablement la dimension tridimensionnelle du corps. Et donc, il s'agit de repenser, en fait, la page, hein, d'écriture, véritablement chez Michaud. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, finalement, je repensais à ça, chez Michaud, c'est que cette opération, j'allais dire, de désubjectivation d'un certain modèle de la pratique proposée par l'écriture poétique, et sa resubjectivation, hein, au niveau du dessin, qui d'une certaine façon reprend, détourne, suspend la pratique de l'écriture, se fait grâce à ce que moi j'appelais à l'époque un plan de subjectivation seconde, c'est-à-dire se fait finalement, ça signifie que on suppose, enfin pour qu'il y ait désubjectivation, resubjectivation, ça suppose que d'une certaine façon, on élabore la possibilité d'un plan transcendantal de subjectivation qui n'est finalement qui conditionne cette opération de resubjectivation. Et c'est là où, à mon avis, on passe de la question de l'émancipation individuelle, hein, celle du poète Michaud, à la question de l'émancipation collective, le fait que l'émancipation individuelle, elle repose par définition sur un appareil collectif, qui est un appareil, effectivement, de mémorisation collective. Et c'est là où je crois que la question de la pratique, hein, et je voulais juste relancer finalement un peu la conversation à partir de ces quelques réflexions, la question de la positivité de la critique et la question de la manière dont la critique renvoie, en fait, à des possibilités de désubjectivation, resubjectivation, hein, suppose, hein, ultimement, qu'on réfléchisse à nouveau à ces questions de qu'est-ce que c'est que ce corps collectif, hein, qui est présent comme un plan transcendantal dans les pratiques de la mémoire, hein, comment penser cette chose-là, comme éventuellement une articulation d'une modalité strictement affirmative de lutte qui pourrait être nécessairement passée nécessairement par l'individu, n'en sont pas moins essentiellement collective. Voilà. Donc, au fond, là, je ne fais que faire une espèce de nouvelle synthèse de ce qu'on s'est dit pour réarticuler la problématique. Mais maintenant, je vais simplement faire ce que je m'étais proposé, c'est-à-dire donner la parole successivement à Florent et à Manuel pour qu'ils nous disent comment eux, ils voient la chose. Voilà. Florent.
Dépourvu, mais juste pour préciser, en fait, avec Catherine et Manuel, on a commencé à discuter sans vraiment boucler une conversation autour de ces thèmes qu'on a abordés pendant le séminaire, notamment quand il y a eu la séance avec Pierre Huyghe et que ça a sauté aux yeux cette affaire d'une critique qui est distincte de la contestation, qui faisait écho au titre de la séance qu'on avait fait sur Baudelaire la fois précédente, et voilà, où on avait évoqué un certain nombre de choses, notamment le rapport à la frontalité de la critique, que vous aviez qualifié d'oedipienne, etc. Et on s'était dit, un peu comme une hypothèse de travail, que ça pouvait faire un thème de séminaire pour une séance, enfin une session prochaine. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est de le soumettre à la discussion. Ensuite, j'aurai des questions à soulever par rapport à ce que vous avez dit là, des précisions par rapport à comment entendre le terme transcendantal dans dans l'expression de plan de subjectivation transcendantale, comment ça s'articule avec la mémoire et la mémorisation, et même, très concrètement, comment on l'expliquerait chez Michaud, puisque... On sait que chez Michaud, c'est mis en scène dans une aventure très personnelle, très singulière. Il dit qu'il s'est mis à dessiner par accident. Et c'est à prendre à la lettre, puisque la première fois qu'il dessine, c'est après la mort de sa femme, ou en tout cas après l'accident de voiture qu'a eu sa femme, où il sent qu'il ne peut pas écrire, en fait. Et qu'effectivement, il essaie de reconsidérer la page qui est devant lui. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est important chez...
Oui, tout à fait, non, moi je vous avais évidemment, j'ai tout à fait envie, moi j'étais vite pour ne pas parler pendant 2 heures, évidemment, mais voilà.
Donc, voilà.
Manuel
En fait, c'est une question que l'on pourrait aborder d'infinie manière, je trouve... celle de la critique et d'un engagement critique de l'art dans la modernité, dans la postmodernité et aujourd'hui au cas où on ne serait pas sous ces catégories. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Pierre Huyghe a posé cette question de l'autonomie par rapport au terme de critique. Et en fait, je pense que ça serait bien de faire une espèce de rappel ou de brainstorming là-dessus par rapport à ce qu'on entend par portée critique de l'art. Parce que, disons que si l'on doit se remettre au texte canonique de l'Écho de Francfort, on voit que l'idée de l'art est complètement séparée de celle d'une esthétique du contenu. C'est-à-dire d'une esthétique qui suivrait ces normes et qui contiendrait des messages critiques ou polémiques. Donc cela mène à, selon les textes d'Adorno et Horkheimer, surtout, au réalisme socialiste, ce qui est la forme la plus raffinée de barbarie en art. Disons que, donc, on devrait prendre... C'est-à-dire, si je dois donner une approche des mots de Pierre Huyghe, une approche historique ou historico-esthétique, il faudrait commencer à penser que l'autonomie de l'art, un, se passe au niveau formel, comme on avait dit avec avec Dominique Ficarella, comme j'avais dit à Dominique Ficarella, je pense que formalisme, sous ce point de vue-là, qui tente de couvrir tout l'ensemble des pratiques qui portent le message de la modernité, formalisme passerait par un seul axiome qui est d'utiliser la forme comme seul contenu et comme seul réceptacle de contenu. En quelque sorte, elle n'est pas un réceptacle. Donc, autonomie par rapport à la forme, comme séparée du contenu, mais non pas, comme on a voulu le comprendre à plusieurs reprises pendant l'histoire de l'exégèse de l'art moderne, non pas une autonomie qui ferait d'elle-même son propre thème. À ce moment-là, je pense qu'on serait dans une recherche d'hétéronomie, qui est celle et la plus explicite des avant-gardes, en fait, des avant-gardes historiques, comme on dit. Donc, je pense qu'il serait intéressant de distinguer autonomie du champ artistique qui s'autodéfinit et s'autoproclame comme indépendant, et autonomie du jugement de l'artiste qui met en place une pratique, qu'elle soit transversale ou qu'elle soit autonomiste, pour ainsi dire. Donc, je trouve que si on fait cette distinction-là, on arrive à percevoir certains malentendus assez clairement. Par exemple, on a voulu faire une distinction entre des démarches qui visaient une mise en relief de l'autonomie de la peinture, disons comme l'art premier, des pratiques qui démarrent avec Kandinsky, qui suivent avec Malevich, qui continuent avec Mondrian, et que l'on dénomine formaliste pictural, et qui viserait à mettre en relief le fait que seule la peinture peut se donner des normes à partir de faits et de phénomènes strictement picturaux. De l'autre côté, sous cette fausse distinction, il y aurait des courants ou des écoles ou des mouvements qui tenteraient de produire des effets de transversalité. On pense par exemple aux pratiques constructivistes qui sont à mi-chemin entre la production industrielle, le syndicalisme pur et dur et le formalisme. Donc, je pense qu'il serait intéressant de recadrer ça, de bien mettre en relief que c'est une fausse distinction et que depuis le début de la modernité, si l'on doit l'entendre en tant que tel, et si on doit en faire un concept compréhensif et non pas exclusif, il faut entendre que la modernité comporte une idée de subjectivité qui est liée à une idée d'autonomie du sujet, qui est celle qui nous relie à Kant et qui, à la limite et dialectiquement, peut se passer de n'importe quelle mise en relief de l'autonomie du médium, quel qu'il soit. Donc, il faut parler d'une hétéronomie des pratiques entre elles, mais on ne peut jamais, même si on préconise l'idée d'une pratique de l'art qui soit hétéronomiste, on ne peut jamais se passer de l'idée d'un choix de l'artiste qui prend une position de manière 100% consciente. Et cette position, cette prise de position doit être comprise comme un parti pris éthique, éthico-politique en quelque sorte, parce que ça mène de la subjectivité à la collectivité. Et donc voilà, il faudrait bien sauvegarder cette idée. Moi, je me suis retrouvé dernièrement dans une terrible conférence de présentation d'un phénomène qu'on appelle la Biennale de Paris. Et c'était assez scandaleux parce qu'on a commencé à défendre l'idée d'hétéronomie sans savoir avoir affaire à une idée de subjectivité qui serait en quelque sorte mise à jour en parallèle avec les techniques qui aujourd'hui tentent de mettre en rapport différents champs de pratiques sans faire la spécification c'est de là ou c'est pas de là. C'est des pratiques qui sont aussi valables pour le domaine de l'information, pour le domaine de la création de réseaux politiques et pour la création de phénomènes, disons, esthétiques. On peut mettre à part la question de comment définir un phénomène esthétique, ça peut rester pour un autre jour. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de souligner qu'il y a des pratiques qui préconisent l'hétéronomie sans tenir compte d'une idée de subjectivité qui soit mise à jour. Donc, à partir de ce qu'on vient de dire sur Michaud, je pense qu'il serait une bonne manière de commencer à parler de quelle est la subjectivité antérioriste, antériorisée ou pas, qui accompagne n'importe quelle notion de critique aujourd'hui, et comme on a dit au début du séminaire, dans les pratiques en général et dans la pratique artistique au sein des autres pratiques. Comment une idée de subjectivité peut être en quelque sorte décelée sans avoir à reconstruire les catégories de l'entendement et ainsi de suite, comme Kant a déjà fait pour toujours, je crois. Donc, à partir de là, je pense qu'une question intéressante à vous poser, Catherine, serait d'établir comment une pratique comme celle de Michaud, par exemple, tente de nous renvoyer à une instance qui est évidemment une instance qui fait qui joue le rôle d'une subjectivité, même s'il n'en est pas une, et qui serait quand même désarticulée ou dégagée de tout un système de soumission et des positions disons invariantes. Donc ça serait une question. Après, si donc on arrive à caler la question, à recadrer la question de la subjectivité, je pense que en prenant ça comme point de départ, on serait en mesure de comprendre comment quelqu'un comme Pierre Huyghe peut parler d'autonomie et d'hétéronomie et d'une prise de position. Je ne pense pas contre l'autonomie, parce que ça c'est à mon avis un truc assez inactuel et donc banal, mais en dehors de cette dualité. Et donc comment sortir de cette dualité pour finalement comprendre qu'est-ce que ça veut dire une critique, il ne serait pas de résistance.
Très bien, non, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, pour répondre à ta question, en fait, ça suppose que je réponde à celle de Florent. Mais peut-être, et indépendamment de ça, je pense que c'est parfait comme manière de recadrer. En fait, ce que aussi je voulais dire tout à l'heure en parlant de cause et de désir, et de manière dont effectivement l'enjeu reconception de la critique comme n'étant pas identique à la résistance, elle repose sur la possibilité de comprendre la subjectivité indépendamment de ce que j'ai appelé la fabrique de l'intériorité. C'est véritablement ça, la condition sine qua non, en fait.
D'abord, alors, avant de répondre pour ce qui est de Michaud, que je vais essayer d'extirper de ma mémoire, mais alors j'étais un peu paresseuse, un peu paresseuse, d'ailleurs j'ai repris mon bouquin pour pouvoir vous citer quelques textes éventuellement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est bien qu'on recroise toutes les questions avant que je m'embarque dans un long tunnel sur Michaud, sur Henri Michaud. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais.
J'aimerais savoir, Emmanuel, quand tu parles de Pierre Huyghe, dans quelle mesure est-ce que tu considères qu'il a posé la question de l'autonomie au sein de son travail, de sa réflexion d'artiste? Parce que je ne pense pas avoir réussi à cibler, en fait.
Il marche? Il ne marche pas. Si, ça marche.
Si, ça marche?
Oui. Là, ça marche.
D'accord. Oui, donc je pense que la question de l'autonomie vient du fait que Pierre Huyghe, d'abord, il n'entend pas à faire un travail qui explicite les conditions propres au médium qu'il traite, qu'il utilise, comme le thème de sa pratique. Donc il y aurait déjà une approche qui serait en quelque sorte plus narrative que formelle. Par ailleurs, il y a le fait que Pierre Huyghe entend la pratique artistique comme quelque chose qui a un double sens, qui fait une espèce d'aller-retour vis-à-vis du monde. Et un aller-retour et un aller, un retour et un aller, un retour. C'est-à-dire qu'il y a un circuit avec le monde et non pas un distanciement par rapport à celui-ci qui serait le distanciement de la position d'artiste, hein, qui lui permettrait après de produire des espèces de dénonciations qui auraient une valeur de verdict sur le réel. En fait, ça serait. Dans le cas de Pierre Huyghe, ce sont des pratiques. Par exemple, ce qu'il fait avec Streamside, la ville qui est en train d'être créée et dans laquelle il veut s'inscrire, lui, il a une approche qui peut être celle d'un ethnologue, en quelque sorte, qui est juste de mesurer, dans quelle mesure, de mesurer ce laboratoire social ou cette espèce de culture au sens chimique presque sociale peut permettre une intervention qui en quelque sorte la détournerait et qui ferait un effet de miroir qui nous permettrait tout en la développant de la mettre face à elle-même. Donc pour ça il a une approche qui n'est pas forcément celle d'un artiste, c'est-à-dire d'abord il fait une enquête et après il produit un événement. Et là, ce n'est pas non plus la posture d'un artiste stricto sensu parce que, comme il disait un peu en rigolant, il travaille comme une agence d'événementiel. Après, il y aurait la production de l'événement, donc, qui serait autant un événement produit par un artiste à sens performatif, performatique, si on veut, et aussi un fait social. Qui n'aurait aucune. Qui ne pourrait pas recycler, qui le laisserait un peu dans les mains des gens qui le pratiquent et dont ils, en quelque sorte, se sentiraient. Désengagés. Et donc après, il y a le documentaire qu'il filme. Et dans le documentaire, lui, il va intervenir aussi en filmant des segments qui sont purement fictionnels. D'accord ? Mais qui, compte tenu du fait que l'événement lui-même a été produit par lui et en répondant à une démarche qui est celle d'un artiste, où il faudrait définir l'idée d'artiste, on peut donner quelques lignes après. Mais donc, étant donné que l'événement se produit déjà dans une espèce de scénario fictionnel, parce qu'il n'y a pas de discontinuité entre le fictionnel et le réel, c'est un constat de base pour comprendre son boulot. À partir de là, on pourrait tout ça le faire entrer dans un documentaire qui n'aurait aucune valeur de document, de document arté, quoi, de document télévisuel ou informatif, mais qui aurait une valeur de document culturel qui rassemble des segments fictionnels, des segments d'expérimentation et cette espèce de culture sociale dans le sens d'une culture de laboratoire. Donc l'idée d'artiste serait pas celle de quelqu'un qui détient une forme de techniné, donc d'habilité spéciale pour produire un certain produit, mais quelqu'un qui est capable de s'infiltrer dans divers champs. Et donc quelqu'un qui a affaire à différents systèmes de normes, à différents jeux de langage, et donc quelqu'un qui est soumis à beaucoup de contraintes, à beaucoup d'invariants, et qui peut circuler entre eux. En ce sens, on mettrait en place une idée d'hétéronomie qui serait basée sur une certaine forme d'autonomie, qui est celle de l'artiste qui se capacite lui-même à circuler dans les sphères sociales diverses, sans pour autant tomber sous tous les invariants, se permettant de vraiment sauter de l'un à l'autre et être capable de les mettre l'un face à l'autre. je pense que sa position en quelque sorte est réparée.
Ce que tu veux dire par là, c'est que dans ce jump, si je puis dire, hein, d'un invariant à l'autre, ce qui est contourné, c'est la question de ce que tu appelais le choix ou la position. C'est ça que tu veux dire, je veux dire que tu ne dis pas.
Mm-hmm.
Oui.
Bah, l'idée de la position est l'idée de la position est. Je me souviens d'avoir eu une conversation comme ça avec Florent dernièrement. Je pense que l'idée de la position est infiniment à déconstruire, mais on ne peut pas la remplacer pour une autre sans à nouveau avoir à la reconstruire. Donc il serait l'idée de circuler dans les différents systèmes de position, non pas comme une subjectivité qui se déguise, mais comme une substance protéiforme qui, voilà.
Oui, je voudrais reprendre deux ou trois choses que tu as dites. D'abord, tu dis que sur le travail de Pierre, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée qui produirait plus, qui s'intéresse plus à la narration que la forme. Je pense qu'il refuse l'opposition narration-forme. C'est simple. Et qu'il la met de côté. Enfin, il pense que c'est dépassé, ça. Il fait partie, c'est pas le seul. Hein. Bon. Ensuite, enfin, je vais aller très vite. Hein. L'histoire de Streamside Day, de la question de cette ville comme laboratoire social, etc. Alors, je pense que tout le vocabulaire de la sociologie ou les références à la sociologie ne sont pas très valides non plus par rapport à ce qu'il fait. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Et je pense qu'il aurait même tendance à être sur des positions assez opposées à cette réduction-là, qui est vraiment une forme extrêmement contraignante de représentation du social et des individus. Bon, on en a parlé déjà. C'est aussi pas évident d'employer le mot documentaire, parce que c'est quelque chose qu'il déteste, cette idée qu'on puisse même croire qu'on va documenter les choses. Et au final, c'est quand tu dis qu'il n'y a pas de position, mais une circulation entre les sphères et que donc la position de l'artisan, je pense que ça, on ne peut pas dire que l'artiste jusqu'à présent n'était pas quelqu'un qui circulait entre les sphères ou qui. Enfin, tu vois, ou alors j'ai pas bien compris ce que tu as dit, mais il ne me semble pas que ce que tu as proposé comme nouvelle définition de l'artiste par rapport à Pierre soit nouveau. Hein, pour moi, ça renvoie à des pratiques qui ont déjà une histoire et qui sont déjà repérées. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est, alors il y a cette idée de, par exemple, effectivement de lancer quelque chose dans la quotidienneté, par exemple un événement, mais pas seulement. Hein. Et l'événementiel, c'est quelque chose de compliqué quand même comme notion là en ce moment, c'est tellement aussi un vocabulaire très très connoté. Donc je m'en méfierais un petit peu, mais en tout cas. De lancer quelque chose qui ne soit pas dans une relation, enfin qui ne lui appartienne pas ou qui ne fasse pas auteur, mais qui modifie les représentations, l'équilibre des représentations et qui se propage. Hein, et de lui, peut-être le travail qu'il fait après, c'est de recueillir certains éléments de cette propagation pour, je veux dire, l'augmenter ou la signaler, mais au fond, ça me semble un peu plus, tu vois, ressembler un petit peu plus à ce qu'il fait de dire ça comme ça. Et voilà, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis sur la position de l'artiste qui serait tellement nouvelle à partir du moment où il circulerait entre les sphères. Il me semble que c'est la première chose qu'un artiste fait, c'est de ne pas s'attacher à une sphère. Même bon, tous les artistes ne sont pas comme ça, mais d'essayer d'inventer une manière non répertoriée d'utiliser des vocabulaires, etc. Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui.
Peut-être que ça n'a pas directement à voir avec ce dont il est question ici. Mais moi, en fait, dans ma prise de notes, Parce que moi, j'ai du mal à saisir comment vous utilisez le mot résistance hein, et comment vous l'opposez aussi fortement au mot critique. On avait parlé de la revendication et de la contestation dans l'épisode avec Pierre-Louis, plus que de la résistance. Et moi, je me demandais si le propre de la critique, c'était pas d'inclure la contestation et la revendication, mais en y ajoutant quelque chose qui serait une dimension d'inventivité. Mais que ça ne s'oppose pas véritablement, quoi.
Vous auriez quoi comme modèle historique pour cette idée d'une critique qui inclut la revendication avec un plus de créativité, si je veux dire.
C'est-à-dire que même quand on parle des écritures, de la position de Foucault sur les écritures, en soi, je trouve que c'est une position qui entre en résistance avec un type dominant de modèle d'écriture, dans ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, alors peut-être que ce que vous n'avez pas entendu, et après je laisserai maintenant à Marie, ou peut-être que ce que j'ai tout simplement pas dit, c'est que dans le mot de résistance, ce à quoi je résiste, si je puis dire, c'est à la connotation de réactivité. Au fond, l'enjeu, c'est comment arriver à penser positivement la critique sans cette idée de la réactivité, d'une résistance qui, au fond, va contre. Il me semble que ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans la critique kantienne, c'est qu'elle est absolument affirmative, en réalité. Elle est constitutive et affirmative. Elle n'a rien de, elle n'a rien de négatif, alors qu'une résistance est toujours un aller contre quelque chose. C'est un Gegenstand, c'est l'idée de toujours du... La résistance est suscitée par quelque chose à quoi elle résiste. Et moi, effectivement, je pense que, au fond, la résistance, en ce sens, elle a toujours à voir avec quelque chose de l'ordre de la haine oedipienne, parce que elle est dans cette frontalité de l'opposition. C'est pour ça que je disais gegen, comme en allemand, gegen, ça veut dire effectivement c'est contre, c'est contre au sens en même temps en face d'eux. Ce qui est à la fois ce qui fait front et ce qui est contre. Et pour moi, ça c'est la position oedipienne, c'est-à-dire cette espèce de position absolument insoluble. Parce que sa consistance, elle la tire de ce contre quoi elle fait front. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que tant qu'on est dans ce type de relation, on est dans un cercle vicieux. Et d'ailleurs, on est quand même parti de là, ce que prouve l'histoire de l'art critique, on va dire, au XXe siècle, c'est précisément l'implosion de cette position. C'est-à-dire qu'en réalité, elle refonde... et ça, on peut le montrer pour tous les mouvements post-néo, etc., que constamment, on ne fait que refonder en déplaçant légèrement les mêmes questions. C'est un peu d'ailleurs ce que Jeff Wall repérait avec beaucoup de raisons dans les apories de l'art conceptuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, c'est vrai que je tiendrais à l'idée que tant que la critique... se conçoit dans cette espèce de faire front contre, eh bien, au fond, elle ne fera jamais que ressusciter les vieilles idoles. Donc, au fond, il serait si on pouvait dire ça dans un vocabulaire bêtement philosophique, au sens où platement référencé, on pourrait dire, au fond, est-ce qu'on peut refonder une idée de la critique qui se fonderait sur une articulation Kant-Nietzsche, finalement. C'est un petit peu ça, l'idée. Est-ce que vous voyez mieux? Pourquoi je remets en cause ce terme de résistance?
J'entends bien l'idée de la positivité d'une critique par rapport à la négativité d'une critique. Mais en soi, c'est une question d'utilisation d'un langage courant au niveau résistance. J'ai du mal à saisir pourquoi de telles positions critiques, qui peut-être on appelle de nos voeux, mais je me demande si elles existent jamais vraiment.
C'est précisément, alors là je vais vous expliquer, de toute façon c'est pas seulement pour quelque chose, c'est en soi. C'est en soi, mais c'est aussi parce que depuis que Deleuze nous a expliqué que l'art résiste, et qu'on a entendu tous ces gens qui résistent, soi-disant, on voit que ce mot de résistance, il a une espèce, tout d'un coup, il a pris une espèce de,
ça de poids hein, idéologique. Hein, il fait partie du discours dominant, je veux dire, de la contestation. Hein, tous les gens qui contestent aujourd'hui contestent. Ils disent pas qu'ils contestent, ça c'est un vieux mot de 68. Maintenant, ils disent qu'ils résistent. Hein, voilà. Donc je prends ce mot de résistance parce qu'il m'est offert par l'époque aussi. Hein, c'est-à-dire que... et je pense que non, l'art ne résiste pas. Enfin, d'ailleurs, tant mieux, enfin, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant dans l'art, c'est que précisément, il n'est pas dans cette négativité. Hein, il n'est pas dans ce versant-là. Oui.
Et moi, je pensais par exemple je pensais à la question de l'homosexualité, parce qu'il y a des pratiques, comme vous l'avez souligné, qui sont des pratiques qui ne sont pas artistiques. Mais par exemple, l'homosexualité, en soi, il y a une dimension qu'on peut appeler, et je pense que Foucault a fait de ses voeux, une espèce de quelque chose à inventer, mais qui est une position critique, mais qui, par exemple, là, me semble-t-il, en soi, est aussi une position contestataire, mais qui ne reste pas bloquée sur la contestation, qui souhaiterait inventer quelque chose d'autre. Mais, simplement, j'ai du mal à totalement enlever l'idée de résistance là-dedans, quoi.
Moi, écoutez, ce qui me semble, c'est que précisément, la possibilité, c'est un excellent exemple pour dire le contraire. C'est-à-dire que précisément, enfin, je veux dire, pour autant qu'il y ait choix d'une sexualité, hein, ce qui est... Moi, je crois que l'enjeu pour Foucault, c'était l'homosexualité, mais c'était surtout l'amitié. Hein, c'était, au fond, l'idée, c'était politique de l'amitié. Au fond, l'homosexualité était une manière, j'allais dire, presque détournée d'exprimer dans la société, précisément, hein, une nouvelle conception de l'amitié. Et en ceci, hein, on voit que Foucault, il élargit hein, très très vite. Hein, dès lors qu'il se voit tout d'un coup pris hein, dans les taux des genders divers et variés américains, il se libère de cette oppression idéologique. Hein, on essaie de le remettre dans des causes identitaires et il dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est l'amitié. Et c'est donc pas l'homosexualité. Mais en tout cas, ce qui est important... c'est que précisément, enfin, je veux dire, c'est totalement positif la sexualité. Enfin, je veux dire, on ne choisit pas l'homosexualité ou pas l'homosexualité ou autre chose par résistance. Enfin, ou alors, on nous renvoie au féminisme quasiment obligatoire des années 70. Voilà. Enfin, je veux dire aux questions de l'homosexualité chez les femmes dans les années 70, qui était une homosexualité politique, hein, où à l'époque on nous expliquait que le sexe est politique, enfin toutes ces choses qui se sont avérées d'ailleurs tout simplement disparaître de la circulation tellement elles étaient stupides. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire, en fait, je crois que là il faut revenir à des conceptions un peu plus normales des choses, hein, c'est-à-dire que les gens ne sont pas homosexuels parce qu'ils résistent, hein. Ils sont homosexuels parce qu'ils sont homosexuels, point barre.
Mais bien sûr que oui.
Enfin, là, il ne me semble pas que ce soit une position très, très... Oui. Laurence ?
C'est juste que lui, il avait une question aussi.
Oui ?
Non, moi, je voulais juste demander, en fait, vous n'employez plus le terme de résistance dans le sens de Foucault.
Oui, oui, non, mais je le réfute, parce qu'il me semble que c'est un terme que Deleuze a pris d'une interprétation, que la mode de Deleuze, de toute façon, a complètement... a complètement vidé de son sens. Et moi, je préfère parler de lutte que de parler de résistance, vous voyez ?
Est-ce que je peux ajouter un mot ?
Oui.
C'est à propos de... Parce que vous disiez le terme de résistance est pris dans l'époque, et que c'est un matériau qui nous est offert, mais je crois que c'est vraiment le point très important. C'est-à-dire, je crois que ce dont il faut sortir, c'est l'idée qu'il existerait un modèle anhistorique de la critique. C'est-à-dire qu'au fond, la critique a toujours été la même de l'Antiquité à aujourd'hui, et que finalement, les modalités dont s'opère l'efficacité en fait, de la critique, il y aurait une recette, et ce serait toujours la même. Je pense très, très contextuellement à ce qui s'est passé récemment. On a vu comment la critique anti-Sarkozy n'a pas du tout fonctionné, précisément parce qu'elle était complètement réactive, en fait. Sans vouloir d'ailleurs dire du...
C'est même les guignols de l'info sur...
Ouais, exactement, mais alors c'est... Je ne veux pas du tout remettre en question le boulot qu'on fait, les associations, il y a un certain nombre de choses qui étaient très bien, mais je pense par exemple à cette association, c'est le nom de l'association qui m'intéressait, c'est celle qui faisait La France qui se lève tôt, et qui faisait, vous savez, ces manifs à 6h du matin, entre les deux tours, pour dire, voyez, La France qui se lève tôt, c'est pas celle que vous croyez. Mais moi je trouvais que l'erreur, ça a été de dire La France qui se lève tôt, plutôt que La France qui se lève tard, finalement. De dire, votre morale du travail, votre modèle de la souffrance, d'une certaine façon, on n'en veut pas. C'est-à-dire que finalement, ce qui m'a semblé manquer dans tout ça, c'était une parole libérée
vis-à-vis des valeurs qui étaient d'ores et déjà imposées. C'est-à-dire que finalement, c'était des mouvements qui se sont mis dans une situation extrêmement spéculaire vis-à-vis du pouvoir. C'est-à-dire, ils ont fait un espèce d'effet de miroir. Je dis pas qu'ils ont fait un mauvais boulot, et c'était important qu'ils fassent ça, mais je pense que l'une des impasses, ça a été de se mettre à ce niveau de réplique, en fait. Alors qu'au fond, il aurait fallu court-circuiter la parole en disant ce que vous voulez, nous voulons aussi, mais ce que vous voulez, on n'en veut pas. Et ce qu'on veut, c'est ça. Et voilà, et juste une autre chose auquel je pensais par ailleurs, c'est des modèles de la critique, il en existe finalement, historiquement, il en existe, mais de toutes sortes. Il y en a un auquel je pensais qui fait suite à une discussion qu'on a vue il y a déjà un certain temps avec Catherine, par rapport à la façon dont la philosophie a finalement conquis le terrain de la théologie au XVIIe siècle. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas arrivée avec ses gros sabots en disant « Vous, les théologiens, on va vous saborder, en fait. » Ils ont plutôt dit « Dans la théologie, vous parlez de rationalité, très bien, allons-y. Misons sur la rationalité. » Ils ont fait un truc qui n'était pas du tout de critique frontale, ils ont fait un truc de « Ok, discutons. » Et c'est sur cette base de discussion que finalement les théologiens se sont fait aspirer dans le processus de rationalisation, je crois.
Oui, mais je pense que Laurent...
Il y a Lambert et il y a Laurence. Manuel, rapidement, tu es d'accord?
Non, je veux juste te dire quelque chose par rapport à la question qu'ils ont posée, parce que je partage la question qu'ils proposent de discuter, dans la mesure où... Oui, mais toujours est-il qu'il y a un « nous », que ce soit le « nous » qui se lève tard ou le « nous » qui se lève tôt, et que c'est ce « nous » que l'on doit définir comme une position isolée, séparée ou pas. Parce que s'il y a, quel que soit l'isolement ou la séparation de ce « nous », à ce moment-là, on peut entrer dans un discours de résistance. Et je pense que le problème, c'est un problème réel, c'est comment définir une subjectivité qui ne serait pas ontologique, qui ne serait pas résistante, qui n'aurait pas une espèce de comment dire, qui ne serait pas atomisable. Et je pense que c'est ça le vrai problème, et que quel que soit le type de critique, de langage critique qu'on utilise, c'est un problème qui est en quelque sorte constitutif de la question même de la critique. Si elle doit définir et doit prendre comme point de départ une définition de la subjectivité ou non. Et je crois que c'est là où il devient intéressant de parler des choses comme Pierre Huyghe pour revenir un peu à la question d'origine.
Non, mais c'est là surtout où la question de la pratique et du concept de pratique devient crucial. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, se dire pour arriver à penser la critique sur ce mode affirmatif, il faut se refuser, j'allais dire, le luxe d'une ontologisation de la subjectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on pense la pratique. Puisque c'est la seule façon, en réalité, d'éviter de sauter par-delà toute ontologisation de la subjectivité. C'est de penser la pratique en tant que telle. Il me semble.
Hein. Je pense que la pratique peut être un conducteur de certaines notions, comme celle d'intériorité.
Ah, oui, c'est bon.
Et à ce moment-là, la pratique devient un problème. Un problème à traiter théoriquement.
Alors, je crois que Laurence avait demandé la parole d'abord, et ensuite...
Enfin, c'est plusieurs remarques là par rapport à ce qui a été dit avant, mais il me semble par exemple que sur la question de l'homosexualité, si effectivement on n'est pas homosexuel par résistance, en revanche la position d'homosexuel, elle produit des effets de résistance. On le constate tous les jours. N'empêche que le fait qu'elle produise des effets de résistance, ça a des incidences. Donc, c'était aussi ça, c'était aussi dire, par exemple, que, effectivement, même si les discours féministes des années 60, on en a très vite aperçu les limites énormes, il me semble que ça a aussi pu produire des effets qu'on aperçoit d'autant mieux maintenant qu'on est dans une position complètement régressive sur certains points, finalement.
Je sais pas. Au petit interview qui a été publié de moi justement sur cette question-là dans le rapport de la fin, je suis entièrement d'accord avec vous sur le contenu, sur ce que vous dites. Non. Mais j'en tiens que vous dites quand même la position. Alors, déjà parler de position d'homosexuel, bon, moi ça me fait problème, parce que est-ce qu'on a une position d'hétérosexuel, j'en suis pas, enfin, je veux dire, sans jeu de mots, j'en sais rien, mais... mais ensuite, je dites bien que la résistance, elle vient de l'autre côté, la résistance, vous voyez ce que je veux dire?
Et la position, elle vient de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que c'est la résistance qui assigne la place...
Effectivement, parce que la position, ça ne veut rien dire. On ne se positionne pas comme hétéro ou comme homo, mais qui assigne une place d'homo, d'hétéro ou de, je sais pas, d'autre chose, quoi. Et il me semble que ça, quand même... du coup, ça produit, ça peut produire. Alors peut-être effectivement qu'on se trouve après dans des cul-de-sac, hein, pour continuer sur les expressions un peu équivoques, peut-être, je ne sais pas, mais de produire du coup de la résistance de la part de ceux qui ont suscité sans le vouloir cette résistance de l'autre.
Non, mais ça, je ne nie pas ces phénomènes-là et le fait que naturellement il peut y avoir une nécessité, voire un devoir, de s'opposer à des types d'oppression, etc., et d'aller lutter contre. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'essaie de penser par la critique. Vous voyez, c'est plutôt ça ma position, hein. Ce que vous dites est parfaitement vrai. Il est tout à fait clair qu'il faut avoir des stratégies de lutte, hein, de résistance si on veut, hein, bon, contre ce type d'agressivité ou d'agression. Mais ceci étant, à mon avis, ça n'a strictement rien à voir avec la question de la critique, hein, la manière dont il s'agit de reformuler la critique. C'est deux choses complètement différentes. Vous voyez, c'est là où la politique et la critique n'ont momentanément, hein, absolument rien à voir. Alors, Laurence, vous aviez encore...
Oui, c'était juste pour rejoindre cette question de la critique, pour me demander,
pour revenir à mon idée de position... Par rapport à ce que vous avez dit, il me semble que l'idée de la critique, ça suppose une certaine distance, et qu'effectivement, moi je pensais, d'accord, pas réactivité, mais je pensais négativité. Or, d'après ce que j'ai compris, ça ne vous convient pas non plus.
Non,
oui. Et je me demandais du coup si la question, pour aller très vite, puisque ça a été posé à partir un peu en fonction aussi de ce que les artistes ont pu dire, est-ce qu'il n'y a pas spécifiquement une critique qu'il faut rattacher à une pratique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais à une position d'artiste ou à une pratique artistique qui a cette spécificité et qui passe effectivement par d'autres voies que les modèles qu'on connaît de la critique.
Et pas seulement, enfin peut-être qu'il y a d'autres.
Alors effectivement, moi mon postulat, ce serait plutôt que la pratique artistique est un bon paradigme pour penser la pratique. Et donc, en ce sens, effectivement, il y a des pratiques artistiques qui sont dites historiquement critiques, hein, on est d'accord avec ça, qui, à mon avis, ne nous servent pas à grand-chose si on essaie de penser la pratique artistique, et qui, à mon sens, ne nous aident pas non plus tellement si aujourd'hui on essaie de redéfinir autrement, hein, la question de la critique, parce que ce sont des phénomènes qui sont, j'allais dire, trop... où on a des effets d'historisation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi, je suis assez sensible à ce que dit Florent, qui reprend, hein, ce que j'ai posé. C'est-à-dire qu'effectivement, la critique, elle est historique dans son geste et dans son objectif. C'est-à-dire la cause, elle est historique, hein, et les modalités sont historiques. Et ça, je crois que c'est important de le redire. Et que tant qu'on reste avec l'idée que la critique serait une espèce d'opération, hein, on pourrait dire qu'on pourrait définir en soi... Hein, de manière atemporelle, je pense qu'on n'entre toujours pas dans la vraie question telle qu'elle se pose à nous aujourd'hui.
Mais quand on rattache une pratique, précisément, on ne peut plus être historique.
Oui, mais non, ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, moi ce que j'essaie de faire, c'est que c'est plutôt de penser l'opération critique à partir du concept de pratique qui me est à redéfinir d'une certaine façon, vous voyez, hein. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai du mal à partir au fond de choses qui seraient dites critiques, parce qu'en fait moi j'essaie de repenser ce terme à partir d'un autre terme qui lui-même est à repenser. Donc vous voyez, je suis encore dans des opérations de construction intellectuelle qui font que je ne peux rien tenir pour dit concernant ce qui serait critique ou pas aujourd'hui. Voilà, hein, qui à mon avis ça reste entièrement
construire. Mais je pense que, pour reprendre votre mot de spécificité, non, je ne pense pas que les pratiques artistiques soient spécifiques. Je pense, à moi, elles m'intéressent pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'alors, la dernière remarque, alors là, c'est vraiment une question que je pose, c'est tout à fait d'accord avec l'idée que la résistance, ça peut inclure la réactivité, donc le fait d'être pris dans, en miroir dans ce qu'on critique. Mais l'autre écueil, c'est, pour dire très vite et mal, hein, mais c'est l'absorption, c'est le compromis, c'est l'adhésion, quoi. Alors comment trouver, je ne sais pas si c'est un espace, si c'est une position, si c'est autre chose, qu'on qualifierait de critique et qui évite quand même, parce que là aussi, on est quand même...
Moi, je crois qu'on est trop dans des généralités, là, au niveau des termes, hein, pas au niveau de ce que vous désignez, évidemment, parce que je vois très bien ce que vous voulez dire, mais au niveau des termes, parce que, au fond, la question théorique, là, elle est, à mon avis, elle est plutôt d'essayer de penser l'écart, enfin, de se dire que l'espace dans lequel il y a à penser la critique n'est pas le même que l'espace dans lequel il y a à penser la politique. C'est-à-dire que si nous essayons de définir quelque chose comme... une subjectivité collective, hein, des modes de subjectivation collective qui sont mis en jeu dans les pratiques et donc dans la critique aussi bien, cette collectivité, hein, ou cette dimension de l'anonymat, hein, qui porte les pratiques et qui en font finalement toujours des pratiques collectives d'une manière ou d'une autre, n'a pas grand-chose avec l'organisation effective de la société qui fonde la politique et l'action politique. Je pense que là, on est obligé de penser séparément critique et politique. Et qu'on est obligé de repenser la question du collectif au niveau de la critique sans supposer que forcément il est indexé ou à référer par rapport à ce qu'on appelle collectif dans la sphère politique. Vous comprenez la distinction ?
Lambert.
Merci. Je pense que ce que je vais dire a perdu de la pertinence par rapport à vos réponses, parce qu'elles clarifient beaucoup de choses, en fait. C'est juste que sur la question de l'homosexualité ou même des sexualités, j'ai l'impression quand même que c'est un modèle pour penser ça qui est assez... qui est très important dans la mesure où, justement, c'est... la réflexion actuelle en France sur les sexualités, c'est des réflexions qui veulent sortir du champ de l'identité. Donc c'est quelque chose aussi qui a à voir avec nos problématiques. Et surtout, en plus, qui pourra en sortir, repense l'historicité des catégories sexuelles. Et j'ai l'impression également que c'est la même chose sur les problématiques liées à l'étranger ou à l'immigration. D'autant plus que les deux s'articulent très fortement entre la question du racisme et du sexisme. En revanche... Mais puisque vous venez d'expliquer l'espèce de disjonction qu'on doit faire de manière méthodologique entre critique et politique, je me disais, en fait, sortir de schéma oedipien, c'est d'une certaine manière vouloir sortir d'une sorte de dialectique de la domination, c'est ça ? Mais en fait, je me disais, si le risque, hein, dans cette perspective, et surtout si on est dans le champ artistique, c'était pas le retrait ou l'abstention. Et est-ce qu'il n'y avait pas un problème, finalement, dans l'espèce de dichotomie entre résistance et critique ? Et en fait, je pensais à un moyen terme, et un des trucs qui sont intéressants dans la politique de Deleuze, qui est la politique des minorités, pour le coup, où là, il y a la possibilité d'une articulation entre la critique... Et la politique, et disons, la constitution de pratiques originales, même si le terme est mal choisi, et la position d'un universel ou d'un nous. Donc ça me paraissait, peut-être intéressant. Et puis pour... D'un certain point de vue, d'un point de vue politique, je ne pense pas que le schéma oedipien soit si problématique que ça, en fait. C'est pour ça que l'exemple que tu as pris, Florent, sur le truc la France qui se lève tôt, mais même si c'était un exemple, disons, j'ai peur que finalement, quand on veuille sortir du schéma oedipien, on ne soit pas très mélancolique. C'est-à-dire que, comme si on n'arrivait pas à sortir du deuil d'un certain maximalisme politique, où on se dirait, dans la mesure où il est impossible de sortir des schémas de domination, alors on ne les pense plus, ou on ne s'y confronte plus. C'est des espèces de choses que j'essaie de poser comme ça.
Non, c'est très intéressant. J'aime beaucoup la tournure que prend la conversation, avec cette sorte de progressive articulation entre la question sexuelle et la question politique et la question critique, parce que je crois que c'est très important, en fait. Je pense que là, on touche quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui est peut-être pas souvent posé comme tel, et auquel moi je me sens vraiment assez mal capable de répondre comme ça, je veux dire, tout de suite. Mais tout à l'heure, en répondant à Laurence, je dirais, en vous écoutant, je me disais qu'au fond, et en vous écoutant parler effectivement des sexualités, et bon, tout à l'heure, quand je réfutais l'idée qu'il y a un choix de la sexualité, hein, je ne voulais absolument pas du tout discréditer, hein, au contraire, hein, je veux dire, toutes les études qui sont faites sur les sexualités, les catégories qui ont été historiquement, destinées à les définir, hein, etc. Bon. Mais il me semble que il y a quand même toujours un présupposé qui est considéré comme réglé, hein, quand on parle de la question des sexualités. C'est la question de la sexualité, ce que je veux dire par là. On fait comme si la question de la différence sexuée était au fond une espèce de chose qui n'était pas en soi un lieu de conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là où il y a du conflit, c'est dans la différence sexuée. Enfin, c'est dans le rapport, enfin, vraiment, d'un genre, enfin, plutôt d'un sexe avec l'autre sexe. Et que, vous voyez, c'est qu'en fait, très souvent, on déplace la question, c'est-à-dire on parle des sexualités, homosexualités, queer, etc. Bon, mais on ne parle du coup, on évite complètement de parler de la question de la différence sexuelle en tant qu'on dit différence, qui est encore peut-être un euphémisme, hein, pour parler d'une situation d'altérité qui semble assez mal se passer. Hein. Vous voyez, hein, en sens, on peut dire que ça ne se passe pas très bien entre les sexes, hein, je veux dire, entre les deux parties de l'humanité, et que le problème, il est un peu là, d'une certaine façon. Hein, c'est-à-dire que la guerre, elle commence entre l'homme et la femme, enfin, la guerre, la peur, la haine, tout ce qu'on veut, enfin, dire que ça ne se passe pas très bien, cette affaire. Hein. Sinon, d'ailleurs, on le sait tous très bien. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, voilà, vous voyez, hein, et je pense que dans tout ce qu'on dit sur les sexualités, etc., bon, on oublie, enfin, vous voyez, on évite un peu, hein, on se base sur des questions qui sont des questions définitoires, en oubliant un peu que cette question de la sexuation n'est pas du tout évidente, et que, au fond, alors j'en viens finalement, parce que moi j'ai une espèce de ligne de réflexion sur la question du deux, du double, hein, je parlais de plan de subjectivation second, etc. En fait, hein, toutes les formulations de l'altérité. Hein. Et je pense que la position, l'altérité, c'est quelque chose de parfaitement positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien de... Hein, c'est pas de l'ordre de la résistance. Hein, je veux dire, il y a deux sexes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de parfaitement positif, au sens où c'est... Hein, il n'y a pas de négation là-dedans, d'une certaine façon. Et ils ne sont pas l'un par rapport à l'autre dans un rapport de négation de l'un par l'autre. Enfin, oui, ce que je dis, hein, il n'y a pas de négation. Et que cette question de l'altérité, à mon avis, je la mettrais en relation avec ce que je disais d'une critique positive. Hein. Si j'avais juste à filer, alors vraiment au rythme des associations, hein, un peu de l'association, ce que j'essaie de penser à travers l'idée d'une critique qui n'est pas résistante. C'est-à-dire, je pense qu'au fond... la critique pensée sur le modèle oedipien, c'est aussi La lutte pensée sur le modèle oedipien, c'est la lutte pensée sur le modèle, justement, j'allais dire, de l'homosexualité, hein, ou de l'homophilie, c'est-à-dire celle qui ne laisse pas place à l'altérité. Voilà. Et c'est ça qui me gêne dans l'Oedipe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est que l'Oedipe, il est profondément homophilique, c'est-à-dire que c'est une lutte dans laquelle, au fond, il y a le même contre le même. Imaginons tout d'un coup qu'il y ait vraiment le même et l'autre, c'est-à-dire qu'on prenne au sérieux cette hypothèse, hein, qu'il y en a deux. Hein. Du coup, j'allais dire, topologiquement, tout change. Hein, vous comprenez les choses. Et je pense que c'est peut-être une pas mauvaise base, mais alors là, vraiment, je me laisse complètement aller, je m'en excuse, hein, à ce que vous me suggérez, hein, voilà, pour essayer de repenser la critique.
Oui, je vais...
Oui.
C'est dommage qu'on puisse pas se lancer.
Quand on n'est pas deux,
surtout. C'est juste pour dire sur l'Oedipe et la mélancolie, ce que tu disais sur la France crypto, c'est précisément l'inverse en fait. Moi, ce que je proposais, c'est qu'il s'appelle la France qui se lève tard en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils affirment, c'était pas voyez comme on souffre nous aussi, mais précisément comme on ne veut pas souffrir en fait. Tu vois?
Ça, justement, ça c'est du maximalisme.
Oui, c'est exactement.
Ça, c'est un problème.
Ah, d'accord. Donc, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire.
Donc, Marie, et puis
vous ça va aller plus. Je suis beaucoup plus d'accord. Enfin, je suis très d'accord avec la fin de ton développement. Et en fait, quand tu as dit que c'était difficile et que ça se passait très mal entre les hommes et les femmes, je voulais simplement rappeler cette question simplement de l'altérité comme principe plus général que la question du sexe. Enfin, de la différence des sexes, il y a l'altérité. Oui, et la difficulté à établir un rapport, c'est-à-dire à accepter l'existence de l'autre, à le concevoir, et ensuite à établir un rapport. Et au fond, il n'y a peut-être juste pas de rapport, quelquefois, entre les hommes et les femmes. C'est plutôt ça. Tu vois, enfin, formuler les choses autrement que comme sur le plan, en termes de conflit.
Non, moi, j'ai prononcé le mot altérité, je suis d'accord avec toi. Simplement, je posais ce mot d'altérité en l'ayant, disons, posé à partir de cette question de la différence sexuelle, parce que je pense que si on évite cette formulation, en fait, on arrive à des conceptions éthico-sympathiques de l'altérité qui ne parlent de rien. Hein, tandis que si on la pose à partir de la question de la sexuation, c'est-à-dire de deux sexes, on voit le problème d'une certaine façon. Voilà. J'aimerais qu'on donne la parole à François. Pourquoi pas ? Si.
Non, je pense qu'il y a un impensé dans ton exemple là, dont tu as l'air très content, c'est les technologies en fait. C'est que ces événements-là, on n'en aurait pas eu connaissance sans les médias, qui est quelque chose d'entièrement technologique. Et maintenant, un des grands débats, c'est quel rapport direct ou indirect y a-t-il entre médias et politique. Ensuite, en ce qui concerne la critique, moi je me posais la question de son objet. Alors, s'il suffit de pratiquer pour être dans une posture critique, c'est pas mal, mais à la fin, comme je ne sais plus qui disait, on risque de plus critiquer du tout. Donc quel est son objet? Donc quelle est sa tâche? Est-ce que ça reste de l'émancipation? Est-ce que ça reste d'ouvrir des possibilités au milieu des rapports de pouvoir courants? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui résiste en nous et qui n'est pas du tout négatif? C'est ce qu'on disait, notre pouvoir de désirer, c'est notre désir. C'est quelque chose de tout à fait positif que l'on trouvait. Donc, notre désir résiste, ça l'amène, enfin, éventuellement résiste, quelquefois il s'engouffre, il est tout à fait heureux, mais quelquefois il peut sentir certains obstacles ou quelque chose pour se fluidifier. Non, mais pour dire, avec le désir, qu'il résiste ou qu'il ne résiste pas, je ne sais pas, mais on a notre désir, donc on a une composante de type sexuel, on a les rapports de pouvoir dans lesquels nous nous trouvons, donc qui est quelque chose de politique, et on a les moyens de la critique, donc la pratique, qui sont technologiques, mais les trois sont ensemble. Les trois sont ensemble.
Assez clairement, hein, si vous voulez pas, on est tout à fait d'accord pour penser que l'enjeu est bien d'émancipation. Et même et surtout dans la pratique artistique, c'est tout à fait clair. Hein. Ça me semble être quelque chose, bon je l'ai dit, je le répète, je crois qu'on est d'accord avec ça.
Mais je ne suis pas d'accord avec votre formulation quand vous dites au fond la question c'est de savoir quel est l'objet de la critique et quand vous dites aussi le désir résiste. Moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce que j'ai dit en commençant, la question c'est de savoir quelle est la cause de la critique. C'est-à-dire, quelle est notre cause, hein, au sens où il y a une certaine école qui s'appelle la cause freudienne. Hein, voilà. Quelle est notre cause, hein, au nom de quoi, hein, nous critiquons, et pas qu'est-ce que nous critiquons, d'accord, hein. Et d'autre part, je pense que précisément, le désir ne résiste pas. Et d'ailleurs, son fondement pulsionnel, est un, il n'y a pas de résistance dans la pulsion, précisément. Bon, en tout cas, ce seraient les bases à partir desquelles je proposerais de penser le désir en relation avec la sexualité. Donc vous voyez, hein, je pense que là, dès qu'on formule le problème dans ces termes de quel est, au fond, quel est l'objet de la critique, ça y est, hop, on referme, hein, on referme la porte et on se remet dans ce dispositif d'affrontement-confrontation.
Mais ce sont, en fait, je pense que les objets sont multiples. On disait, ce sont des rapports de pouvoir.
On va s'adresser à des relations. C'est quand je dis objet, enfin voilà, il y a le deux dans mon objet, quand je dis objet.
Voilà. Non, mais je pense que la positivité du désir d'émancipation, qui au fond peut avoir manières de se formuler, différentes manières de se nommer, selon les époques, et c'est toujours la question, et ensuite différentes modalités d'exercice, c'est quelque chose de pleinement positif. Oui, c'est quelque chose de. Si on ne part pas de cette positivité, hein, du désir d'émancipation, dans ce qu'elle a d'absolu, je veux dire d'irrépressible, hein, c'est un peu d'ailleurs ce dont Kant parle, hein, Kant dit voilà, nous sommes libres. Voilà. C'est-à-dire, si on ne part pas de ce point-là, c'est foutu. À mon avis, c'est foutu. Vous voyez ce que je veux dire ? Manuel, je crois que tu voulais prendre la parole.
Oui, ça
peut-être que tu pourrais te mettre ici parce que c'est désagréable certainement pour
ceux qui... Oui, non, c'est que je me mets comme ça, mais c'est après, bon, je saute. Donc, en fait, alors, j'aimerais bien poser, essayer de partager avec vous mon impression du problème. Ça m'a l'air d'un maître qui voudrait être en même temps dans toutes les chambres de sa maison. C'est-à-dire, on parle de pratique, on passe à la théorie. On parle de théorie, on parle de l'artiste, on parle de sexualité, on parle de sexualité, on parle de politique. Politique, contestation. Et on n'arrive pas à définir, c'est comme si on avait un avant-goût de cette question. Et je pense qu'il serait intéressant pour tout rassembler de prendre une question centrale. Pour moi, la question centrale, ça serait bien de dire, pourquoi est-ce qu'on est au Centre Pompidou? Pourquoi est-ce qu'on parle d'art? D'accord? Parce que ça m'a l'air d'être une espèce de jugement sommaire de je ne sais pas quoi. Ça, disons, pour parler de l'éparpillement, espèce de...
Non, je ne suis pas d'accord.
Non, mais bon, quoi, mais... Oui, non, mais évidemment. Mais ce n'est pas grave. Donc, après, il faudrait, à mon avis, dire, bon, si on dit que pour résoudre le problème des antinomies de la subjectivité, il faut parler des pratiques. Après, il faut avoir affaire aux problèmes qui viennent des pratiques. C'est-à-dire, si on parle de sexualité, on se dit non, mais il n'y a pas d'opposition de genre, mais il y a des altérités de fait. Oui, mais ça a des effets de résistance. Ça fait des effets de résistance, ça crée, pour ainsi dire, ça produit des effets ontologiques. Et ça nous ramène à la question de la résistance, c'est-à-dire... Oui, bon, d'accord. Je vais tenter vraiment de mettre un point à la fin de ma phrase. Donc, pour ce genre de questions, donc, à mon avis, ces questions-là ne sont pas importantes si elles ne sont pas connectées. Et donc, à mon avis, s'il y a une manière de les connecter, c'est, par exemple, comment penser la pratique de l'artiste, hein, comme une pratique soit paradigmatique, soit comme une pratique parmi les autres. Et dans cette mesure-là, on pourra voir dans quelle mesure aussi chaque pratique est spécifique ou pas. Et comment est-ce qu'on peut parler des connexions, des transversalités entre les pratiques et aussi, donc, des transversalités entre les subjectivités.
Bon, alors, je te réponds sur deux points. Ensuite, je suis d'accord
pour penser que la question que tu poses, hein, qui est la question que moi j'essaie de soutenir, bon, il faut évidemment qu'on y réponde. Mais je suis profondément, et je suis tout à fait d'accord avec la fin de ton intervention, c'est effectivement la question qu'il faut maintenant, à laquelle il faut revenir maintenant tout de suite. Hein. Donc, je suis contente de ton intervention parce que ça nous permet de revenir à ça. Ceci étant, je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée que cette dispersion serait inutile. Moi, je pense qu'il est extrêmement intéressant, à un certain moment précisément, d'avoir le courage de ce type d'élargissement du dialogue, parce que ça nous permet justement d'inventer des nouvelles façons de poser le problème. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout qu'on se soit, en fait, à travers une apparence de dispersion, je pense qu'on a ouvert quelques fenêtres qui ensuite vont pouvoir réalimenter la conversation, et moi j'en suis très contente. Donc je pense qu'il ne faut pas faire le ménage avant d'avoir commencé à foutre le bordel, hein. Enfin tu vois, si je puis me permettre. Hein. Donc je pense que pour l'instant, on a été super ciblés dans ce séminaire quand même, hein, et au point qu'on se rend compte qu'il y a des convergences presque angoissantes entre toutes les artistes, hein, qu'on invite. Puisqu'en gros, hein, ils sont tous pris dans la même problématique, bon, et c'est presque trop bien d'une certaine façon, hein, je veux dire. Bon. Donc pour moi, l'enjeu de ce séminaire, c'est pas de thématiser, tu vois ce que je veux dire, la question simplement des pratiques de la mémoire dans les pratiques artistiques contemporaines. Sinon, j'aurais proposé ça comme sujet de séminaire, tu vois. Donc c'est pas le but. Donc moi, je suis assez contente que momentanément, il y ait une espèce de bulle et qu'on fasse un peu craquer le cadre, hein, tu vois, qui est un cadre effectivement très pointu que je propose, et moi je suis aussi assez contente qu'il soit un peu réouvert et quitte à ce qu'on ait le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. Bon, premier point qui est un problème de méthodologie du séminaire, hein, parce qu'on voilà, un séminaire à mon avis ça doit comporter des moments comme ça où ça craque un peu, et d'autres, je veux dire, ça craque dans le sens où les limites qu'on s'est données conceptuelles, voilà, on leur donne un peu aussi on lâche un peu sur là-dessus. Deuxième point, alors là c'est très différent, c'est au niveau du contenu théorique. Quand tu parles, tu as employé l'expression les altérités de fait. Sauf que la différence sexuée, c'est pas une altérité de fait.
Non, mais je parle pas de sexualité, je parle de ton expression. Mais il y a des altérités positives.
J'ai pas du tout dit il y a des altérités qui sont positives de manière très très vague.
Un rapport positif,
j'ai reconstruit la notion d'altérité à partir de la notion de différence sexuée. Et l'idée de, donc, pour précisément, j'allais dire, désociologiser et défactualiser la notion d'altérité, et pour la poser comme une condition transcendantale. Donc tu vois, donc moi je tiens quand même en revanche, là, on reste rigoureux sur ce point-là. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et donc c'est en ceci que l'intervention de la question sexuelle dans notre débat me paraît très importante, hein? C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout, et j'étais très contente que Lambert la ramène de même que Laurence, elle est très importante puisque c'est vraiment la question. Quand Florent me parlait de ce plan de subjectivation transcendantale dont vous parlez, pour moi, effectivement, en tout cas tel que j'ai essayé de le penser à propos de Michaud, ça renvoie effectivement à la question du « deux » et à la question de la sexuation, hein, même si c'est jamais énoncé vraiment comme ça, puisque la pensée a dans des termes de passivité, etc., et d'activité. Bon. Donc, moi je pense que... Il y a du transcendantal dans cette altérité-là, tu vois, et c'est même ce qui lui donne son incroyable puissance d'opération.
Mais donc, ma question était que, donc, tu dis, il y a du transcendantal, ça il l'entend, il y a du transcendantal dans cette idée d'altérité-là, et donc, ma question, elle est vraiment, c'est une question métaphysique, et ce n'est pas une question ironique.
Non, mais j'ai bien entendu.
C'est une question vraiment que je trouve essentiel à ce débat. À ce débat, et c'est s'il y a du transcendantal dans cette notion d'altérité, est-ce que cette teneur en transcendantalité n'engendre pas des effets de résistance qui sont constitutifs et qui en quelque sorte ne peuvent pas être évacués et qui produisent constamment l'impression qu'on ne peut pas se passer d'une idée de résistance au sens ontologique quand on fait une critique.
Non, moi je ne suis pas d'accord parce que j'aurais
tendance... Mais j'aimerais bien que tu expliques exactement pourquoi.
Pourquoi tu... Oui, parce qu'il me semble que si effectivement on peut considérer que cette altérité, elle opère comme un fondement transcendantal, ce qu'elle fonde, ce n'est pas du tout une résistance, c'est une distance. Tu vois ? Et donc c'est très très différent. C'est-à-dire ce qu'elle fonde, c'est véritablement un écart
Il y a un écart absolument non réductible. Et donc, l'écart n'a rien à voir avec la résistance. Et les pôles ne résistent pas, simplement. Voilà. En un certain sens, ils n'ont pas de rapport. Voilà. Et cet écart-là, tu vois ce que je veux dire, c'est cet écart-là qui, pour moi, a une fonction transcendantale. Tu vois, je te réponds de façon très métaphysique.
Bien sûr, bien sûr. Mais ce que j'aimerais bien que tu expliques maintenant, une fois que tu as fait cette précision, il serait maintenant dire, bon, pas une résistance, une distance. Mais comment penser une distance qui ne serait pas entre quelque chose A et quelque chose B, donc qui ne serait pas ontologique et qui donc ne nous ramènerait pas à des questions, de monadologie.
Non, parce qu'en fait, moi, cette distance, je la pense précisément en termes de topologie. Je la pense pas en termes de monadologie. C'est-à-dire, cette distance, c'est pas, elle définit pas les deux pôles de l'un, tu vois. Hein, elle définit une topologie avec qui est fondée sur, effectivement, j'allais dire, le caractère absolument inexpiable de cet écart. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà, donc je pense que toi, tu continues à penser en termes de tension et en termes crypto-hégélien, ce qui finalement est assez logique, ça correspond bien à ta position.
Voilà,
mais,
c'est qui est vraiment...
mais, voilà.
Je pense que lui, il avait une question.
Oui, c'est un peu par rapport à la conversation. Moi, j'ai l'impression que finalement, il y a une véritable résistance à s'affranchir en termes de résistance. Et finalement, c'est vrai que sur la question du désir, si on considère un désir sans résistance, on est finalement dans une société qui est celle de Sade ou de Wilhelm Reich. Quoi. Donc, est-ce que c'est seulement une distance ou est-ce qu'il y a bien un rapport finalement entre ces différentes instances qui sont topologiques, qui sont à un niveau psychique, et, par exemple celle du ça, du moi et du surmoi, qui sont bien dans un rapport de résistance et non pas simplement dans une distance.
Et là, vous revenez à la construction du sujet monadologique. Vous ne parlez pas de l'altérité
qui est comprise dans la différence sexuée. Oui, non, je vois bien qu'il y a une résistance à se passer du terme de résistance, et d'ailleurs, je l'entends complètement, hein, cette résistance. Comme vous le savez, je prétends pas. Non, mais je veux dire, je me pose pas là en maître qui prétend occuper toutes les places du transfert. Pour répondre à Manuel. Simplement, j'entends ce que vous dites. Simplement, j'entends ce que vous dites et voilà, et ça me pose réellement question. Et simplement, moi, je reformule ma position pour tâcher de l'expliciter. Quand vous dites ce désir qui se penserait en termes de distance, hein, et d'altérité, hein, c'est-à-dire en fait en termes de manque, hein, mais pas de manque au sens un manque qu'on pourrait combler, un manque qu'on ne peut pas combler, hein, c'est un truc qui de toute façon est là. Bon, à partir de ce moment-là, je veux dire, il n'est pas question de Sade. Hein, c'est-à-dire que Sade, c'est au contraire, je veux dire, la possibilité d'une réécriture de la sexualité sur le modèle de la nature, hein, c'est-à-dire et sur le modèle surtout du plein et du vide, hein, c'est-à-dire en fait de l'analité. Hein, donc vous voyez, hein, c'est-à-dire ça se remplit, ça se vide. Donc je veux dire, ça, on n'est pas du tout dans un modèle, on est dans le modèle de digestion chez Sade, on n'est pas dans le modèle de la sexualité. Hein, donc vous voyez, hein, contrairement à ce qu'on nous fait croire souvent. Donc pour moi, voilà, je vous réponds. Hein, donc pour moi, la question de ce qui, de la possibilité de disons, d'opposer un schéma de résistance, quelque chose comme une vision de l'altérité qui est ramenée à l'idée d'un plein qui serait rempli et qui se, etc. Je dis non. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'un côté la résistance et de l'autre côté, la plasticité absolue, hein, on va dire, de cette espèce de cercle vicieux, hein, qu'on voit chez Sade. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je comprends bien votre position, mais je pense qu'elle est, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'étais claire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, c'est bien ce que je vois. Non, mais c'est pour ça que je.
Ce que je comprends pas, en fait, c'est que vous expliquez de ça sur le mode de la digestion et non pas en termes de satisfaction de pulsion.
Parce qu'il y a le fantasme de ça, que la satisfaction est
possible. Oui.
Ben voilà, je veux dire c'est ça que la notion même de différence sexuée est problématique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que le manque, il est absolument ontologique.
Oui, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que précisément, à partir du moment où on essaie de penser la sexualité, je veux dire, dans les termes de l'altérité que j'ai voulu vous poser, c'est-à-dire, enfin pas voulu, mais que je pose, et que et dans les termes de la différence sexuée entendue en un sens strict, hein, il n'y a pas de satisfaction, comme dit Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une idée troublante, mais c'est une idée qui, d'une part, n'annule pas le désir, mais d'autre part, ça veut dire que tout simplement, le modèle sadien, comme quoi on pourrait transgresser, exécuter la transgression, se satisfaire, etc., c'est un modèle, on va dire, véritablement de... oui, il y aurait du satis, il y aurait de lasser. Hein. C'est pour ça que je parle de modèle anal, s'il y a une idée d'un truc, ce serait, voilà, à rabord. Ben non, finalement, c'est pas ça. Oui, alors, en tout cas, moi, je propose, hein, je dis pas que j'ai la vérité. En tout cas, dans ce que j'essaie de penser, je dis non, c'est, ça parle d'autre chose. Vous voyez,
hein? Si je comprends bien, en fait, vous pensez, enfin, vous substituez à la résistance à cette idée de substance en plaçant finalement l'altérité dans le rapport de mon rapport.
Exact.
Ouais.
Il confronte au besoin absolu de produire du rapport, oui, même s'il n'y en a pas, enfin précisément parce qu'il n'y en a pas.
Voilà. Mais à partir de la connaissance qu'il n'y en a pas.
Voilà.
D'emblée, il faut s'y mettre.
Voilà, il faut s'y mettre.
Ça, c'est après la position d'artiste.
Par exemple.
Oui, juste tandis que nous parlions, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure en entrant, il y avait des jeunes avec des chiens. Là, actuellement, ils sont entourés par une douzaine de personnes qui sont en train de replier leurs tentes et de les faire, de les évacuer. Voilà.
D'accord.
Alors, entre la dualité transcendantale et des ontologies diverses, oui, on a quelque chose de très concret juste à côté.
Vous proposez quoi?
On fait un court-métrage.
Bon, moi, j'ai peur des chiens. Voilà.
Bon, ça, c'est un point.
Et les chiens sont aussi là pour faire peur.
Voilà, je ne suis pas sûre que les gens qui ont des très très gros chiens pour leur servir de double, ça me... Non, mais d'accord. Non, je vous en supplie, pas de... je ne pense pas qu'on emploie ces termes en se faisant plaisir. On essaie simplement de préciser une question théorique. Et je pense que c'est notre boulot. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On a tous notre boulot dans la vie. Nous, on essaie d'articuler des questions. Et on le fait parfois sur le mode du plaisir et de la joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour autant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.
Je vais essayer de répondre à Marie qui vient de parler d'un jeune artiste et donc qui a soulevé la vieille question qu'on avait comme ça avortée. Au risque de paraître un peu obscène du fait de passer à côté du concret, mais disons qu'il y a tellement de choses concrètes à côté de que l'on passe.
En fait, c'est parce que cette idée d'artiste, et pour reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça serait bien de faire une espèce de cours martial sur la question est-ce que la subjectivité de l'artiste est paradigmatique ou pas. Mais voilà, mais dans le sens...
Martial, tu sais ce que ça veut dire?
Non, mais c'est-à-dire... Oui, c'est un jugement militaire, en fait.
Mais oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, par rapport à notre approche sur la question de la pratique, délimiter notre vision de la subjectivité artistique? Je me demande si on pourrait. D'accord. Après, je pense que c'est surtout Catherine qui va m'en donner une réponse.
Voilà. Non, je ne vais pas vous donner une réponse, mais ce que je vous propose, moi je pense que voilà, on revient donc à la question que tu posais tout à l'heure, c'est au fond, qu'est-ce qu'il y a de paradigmatique éventuellement dans la pratique artistique et dans la mise en jeu de la subjectivité dans la pratique artistique qui pourrait nous permettre d'éclairer, hein, d'autres modalités de subjectivation et qui interviennent dans les pratiques en général. Je pense que, et d'autre part, est-ce qu'effectivement on peut considérer en droit que... les types de subjectivation mis en jeu dans la pratique artistique sont paradigmatiques. Question encore plus importante. Il n'est pas question d'y répondre en une heure, évidemment. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 5 minutes, hein, parce que je vois qu'il est 4h15, donc c'est peut-être bien de prendre un petit moment, qu'on reprend vraiment à 4h30 pour avoir une heure. Et moi, je vous proposerai les analyses sur Michaud, ce qui nous permettra peut-être de repartir dans cette direction de façon très précise.
Hein. Excusez-moi, est-ce que ça serait bien de répondre à la question de l'artiste Superwig, hein, parce que j'ai quelque chose de très concret à dire par rapport à quelque chose qui est complètement historique.
Oui, alors.
Et donc, si Marielle doit partir, je pense que ça peut être intéressant pour tous parce que c'est une question, à mon avis, cruciale. Et, parce que tu m'as dit quelle notion d'artiste et est-ce que j'étais en train de l'utiliser. Et tu disais qu'elle ne correspondait pas à ce que tu pensais qu'était la pratique de Pierre Huyghe. En fait, je pense que la position de subjectivité artistique que Pierre Huyghe défend, elle n'est pas une position d'une subjectivité qui serait constamment en disposition de s'affirmer, comme on a vu pendant vraiment 150 ans à peu près de modernité explicite. Mais je voulais juste te dire, à tout moment, il y a eu des artistes qui revendiquaient une position d'artiste dans n'importe quelle situation. Je pense que Pierre Huyghe, c'est une spécificité assez intéressante, non pas de son travail, mais d'un genre de travail qui est aujourd'hui en quelque sorte repérable, comme symptôme, comme genre, je ne sais pas, et c'est que la subjectivité, en fait, la pratique de l'artiste est produite par la situation elle-même dans laquelle il faufile. Et ce n'est pas une subjectivité qui possède des catégories fixes et qui serait capable de constamment faire une espèce d'exercice de traduction de chaque situation. C'est chaque situation, comme il dit, je me place comme témoin d'une situation et j'essaye de tirer le coefficient de fiction. Et à partir de là, de le développer.
Il prend la situation comme un matériau. C'est une décision de...
Mais notre problème n'est pas celui du matériau. Notre problème est celui de la subjectivité. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on est dans la situation.
Absolument, mais c'est une décision subjective de faire ça. Tu vois, c'est pas la situation qui fait...
Oui, mais on parle de déconstruction.
C'est Pierre Huyghe qui décide de prendre en compte une situation pour travailler dessus. C'est pas pareil.
Mais on ne peut pas aller de la déconstruction dans le sens où on ne peut pas... recréer une sorte de seuil comme si ce genre de parti pris qui nous ramène à Kant pouvait être en quelque sorte forclos ou évacué. Je pense qu'il y a toujours ce moment de décision subjective qui est celle du sujet moderne, du sujet éclairé, et que ça est soumis au crypto-hegelienne ou pas à une dialectique qui est à la fin déconstructive. D'accord ? Je suis désolé, mais...
Je te soupçonne de reconduire en fait une dualité très classique et liberté-déterminisme, et en fait une conception hyper naïve de la subjectivité, mais je dis ça parce qu'il y a la pause juste après. Et deuxièmement, sur la valeur paradigmatique ou non de l'art pour penser ce qu'on essaie de penser, en fait, il faudrait remonter à Aristote et à la Mimésis. Mais bon, ça c'est... Pardon ?
Pourquoi elle est naïve, je peux vous
dire. De quoi ? Ta distinction ? Entre liberté et déterminisme ?
Cette dichotomie, elle est naïve dans mon propos, mais je ne comprends pas pourquoi.
Non, mais parce que elle est aporétique, c'est une antinomie, en fait. Ou alors je la comprends mal, mais... Le problème n'est pas est-ce que c'est la situation qui fait Pierre Huyghe ou est-ce que c'est Pierre Huyghe qui crée la situation. Je pense pas que là, qu'il faille chercher de ce côté-là.
Non, c'est pas ça, c'est que lui, il se place dans la situation de là où il est sympathique. C'est la situation qu'on fait, qui n'a pas une espèce de préjugement sur le domaine d'inscription et le domaine de transmission et finalement le rôle de l'artiste.
Mais à mon avis, ça c'est pas, c'est, disons, ça va pas nous amener très très loin en fait, hein, parce que ça va être question conscient, inconscient, déterminé, pas déterminé, idéologie, pas idéologie, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un cul-de-sac.
Je ne sais pas si c'est en raison de ton rapport aux arts plastiques, qui peut être naïf, c'est peut-être à cause de ça, mais il y a quelque chose qui est très important que je voulais dire juste à Marie, et c'est que pour beaucoup de pratiques, jusqu'à un certain moment. Et c'est pour ça que je suis extrêmement allergique à ce syntagme, l'artiste, qu'on peut employer de manière horizontale, que tu employais, et donc ça m'a fait réagir. Mais je pense que pour des longues années, l'artiste, comme entité séparée, donc résistante, a une membrane. Et cette membrane, c'est l'œuvre. Et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser le terme document, non pas dans un sens documentaire, tu vois, mais dans un sens non poétique. Non poétique,
Oui, je suis peut-être un peu obscur.
Oui, on est en train de se dépêcher, en fait, c'est un peu dommage. Mais il faudrait qu'on en parle.
Oui, on en reparle, bien sûr. Ah, excuse-moi.
Là, l'histoire de la morale, de la politique, je suis peut-être pas
Mais disons que historiquement, l'artiste a une membrane et c'est l'œuvre. Et que chez Pierre Huyghe, il y a une dissolution de cette membrane. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'hétéronomie. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on parle chez lui d'hétéronomie.
Moi, ce que je propose, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre le problème, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne ça dans une séance ultérieure. Et puis, de toute façon, je pense qu'on ne va pas s'arrêter cette année et que donc tout ça va continuer. Hein. Donc là, donc on prend jusqu'à 4h30, vous êtes d'accord? Et puis on se remet à notre discussion.
Ah, vous êtes, tu peux regarder là.
C'est
subjectif. Nous comme ça. On a fait un temps de...